pense que ça va démarrer. On va attendre un tout petit peu. On est à 5 430 212 participants, ou un petit peu moins.
À 100 000 près.
À 1 million près, c'est ça. Bon, c'est parti. Donc, je suis Olivier Gentil, je suis le président de MyBestPro, cofondateur de Jury Travail qui vous accueille ce jour pour ce webinaire, donc cette webconférence sur les aides de l'État à destination des professionnels des secteurs hôtels, cafés, restaurants. On aime tant, on aimerait vous voir, on aimerait discuter avec vous, on aimerait vous payer des services. On ne peut pas pour l'instant, on en souffre tous. Donc pour l'instant, ce qu'on peut faire, c'est essayer de vous aider. Donc on a réfléchi avec mes collaborateurs pour essayer de trouver en fait les questions auxquelles on pourrait peut-être vous apporter des réponses ou des compléments de réponses. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'inviter donc deux professionnels qui vont essayer de nous aider à répondre à vos différentes questions qu'on a pu récolter ces derniers temps. Le premier, Maître Druino. Bonjour Maître.
Bonjour Monsieur Gentil, ravi d'être
avec vous. Dites-moi tout, vous êtes où et vous êtes spécialisé en quoi?
Alors moi j'interviens au barreau de Poitiers, donc dans l'ouest de la France. On a un cabinet qui est basé à Angoulême, Bordeaux, La Roche-sur-Yon et Poitiers, et bientôt La Rochelle. Et mon activité est une activité centrée sur le droit public, donc le conseil aux collectivités et aux entreprises qui travaillent avec les collectivités. La relation publique-privée, on va dire, dans le droit public des affaires.
D'accord. Donc, en termes d'aide de l'État, c'est un sujet que vous connaissez bien.
La fois, j'ai été beaucoup sollicité au cours de ces derniers mois sur cette question particulière du soutien des collectivités, on va dire, de l'État en particulier, mais des collectivités en général, aux entreprises, et notamment aux entreprises de la restauration, de l'hôtellerie et de l'hébergement touristique au sens large du terme.
Bon, bah écoutez, c'est parfait. Vous allez pouvoir apporter des réponses précieuses à tous nos internautes. Et nous avons la chance aujourd'hui de recevoir un deuxième expert. Donc, il s'agit de Walter Gervason, qui est expert comptable et directeur associé du groupe Access BPGR et qui se situe, faites-nous rêver Walter.
Eh bien, à trois endroits, à Paris, à Sofia et à Nice, donc principalement sur la Côte d'Azur. Malheureusement, eh bien, une zone, on va dire, sinistrée par cette pandémie, donc tout à fait au fait et dire à l'aide de nos clients dans ces secteurs d'activité.
Bon, bah écoutez, on a deux professionnels qui connaissent le sujet. Donc, on est directement sur, on a 45 minutes ou une petite heure pour pouvoir traiter l'ensemble des questions qu'on a pu récupérer. Donc, c'est parti. Il y a plusieurs, effectivement, sujets que vous souhaitez que nous évoquions. Donc, il s'agit tout d'abord des aides qui sont apportées à tous les professionnels qui sont réunis autour de nous aujourd'hui. Il y a quelques cas spécifiques parce que les aides, effectivement, de manière générique, sont faciles à comprendre, mais sont plus faciles à décrypter. Mais chacun a l'impression d'être dans une spécificité qui mérite un éclaircissement. On va parler de fiscalité de ces aides, parce qu'in fine, eh bien, il y a peut-être des choses à faire. Et puis, quand on reçoit des prêts, des aides, on se pose la question peut-être un jour de les rembourser. Ce sera une bonne nouvelle, ça veut dire qu'on aura réouvert et qu'on pourra, nous tous, en tout cas, retourner dans ces cafés, hôtels et restaurants pour passer des bons moments. Donc, du coup, il va falloir rembourser ces aides et nous allons en parler aussi en toute fin de cette webconférence. Donc, juste pour vous préciser que, en backup de cette webconférence, nos juristes Alice et Alexandra sont présentes pour vous orienter sur tous les contenus du jury de travail qui pourront effectivement vous apporter des compléments d'information. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions via la fenêtre de chat. Je ne suis pas certain qu'on vous répondra en tout cas en live, mais on gardera vos questions et on essaiera de vous répondre en mode asynchrone. Eh bien, c'est parti pour ces aides de l'État en 2021 pour nos hôtels, bars et restaurants, qu'ils soient à Poitiers, à Nice, Sofia ou à Paris pour Walter. La première question, bah, elle est pour Maître Bruno parce qu'elle est générique, elle concerne votre domaine d'expertise. Il s'agit des aides de l'État sur ce secteur. Est-ce que vous pouvez, en quelques mots, nous faire un petit topo sur toutes les aides qui ont été octroyées par le gouvernement pour nos amis, donc restaurateurs, barman et hôteliers, qu'ils soient hôteliers de plein air ou pas?
Absolument. Dès le début de la crise sanitaire, donc on est au mois de mars 2020, il va y avoir malheureusement, il y a un an de cela, le gouvernement a pris la mesure de la difficulté qui allait être celle des hôteliers, restaurateurs et autres professionnels de l'hébergement et de l'accueil, et ont été déclenchées toute une série d'aide, une première salve, j'allais dire, d'aide, sur laquelle je ne reviendrai pas parce que justement, c'est le passé. Je crois que l'idée, c'est de ce qui se passe aujourd'hui en février 2021 par rapport à ces aides que l'État continue d'apporter, soit par la prolongation de dispositifs existants depuis mars 2020, soit par la création de nouvelles catégories d'aide. Et on va parler notamment de celles que les internautes ont posées sur les dispositifs de soutien à l'emploi des jeunes ou tout ce qui relève du dispositif de travail partiel, etc. J'ai essayé de serrer ces catégories d'aide en deux grands thèmes, ce sont les aides que je qualifie de principales et les aides qui sont un peu plus secondaires. La grande catégorie d'aide, c'est d'abord le fonds de solidarité. Le gouvernement a mis en place, dès 2020, un fonds de solidarité pour soutenir l'activité des entreprises de restauration, de l'hôtellerie. On ne va pas revenir sur cette catégorie, quoique on fera un petit peu quand même sur ce que dit ce décret dans ses annexes pour qualifier la typologie des entreprises concernées. Le fonds de solidarité, alors il serait, à mon avis, très fastidieux et un peu impossible de rentrer dans le détail des conditions d'octroi de ces aides. Il faut savoir que sous réserve de la perte d'un chiffre d'affaires entre 50 et 80% sur une période déterminée, il faut voir que le décret dont on parle, c'est un décret de mars 2020 qui a été prolongé et qui est prolongé. Il a été réécrit à de nombreuses reprises parce qu'il définit mois par mois les possibilités d'aide. Et là, on parle de subvention. On va y venir dans un instant puisque ça impacte directement cette question de remboursement. Donc, ce décret de 2020, 30 mars 2020, il définit, alors il fait plusieurs centaines de pages, et il définit mois par mois les possibilités de subvention qu'il est possible de flécher sur les entreprises dédiées. Entre 1 500 et 10 000 euros sous forme de subvention. Quand on parle de subvention, on fait appel à une loi de 2000, donc une loi ancienne maintenant qui a plus de 20 ans, et qui dit qu'une subvention, c'est un flux d'argent public fléché de manière conditionnelle sur une entreprise privée, mais sans condition de remboursement. Donc, ce qu'il faut comprendre tout de suite, c'est que les flux financiers qui arrivent du fonds de solidarité ne sont pas remboursables. C'est un point important. Il faut vérifier, bien sûr, dans les termes du décret, que l'on correspond à cette notion de perte de chiffre d'affaires entre 50 et 80% par rapport à la même période l'an passé. Et le décret prend du mois de mars 2020 au mois de février 2021, mois par mois, et c'est la même typologie d'aide, entre 1 500 et 10 000 euros qu'il est possible d'obtenir sous forme de subvention. Ça, c'est, j'allais dire, parmi toutes les aides, la plus symbolique, la plus forte aussi, parce que c'est un fonds qui est doté de 7 milliards d'euros et est donc le levier majeur mis en place par le gouvernement et les collectivités pour venir en aide directe sur le bilan direct des sociétés concernées par le flux d'une subvention.
J'ai une petite question, si vous me permettez, maître, afin que personne ne soit stressé, et il reste encore des sous dans ce fonds?
Alors, a priori, il reste encore des sous, puisque lorsqu'on se rend, et j'ai évidemment en préparant cette petite conférence fait un petit tour sur le site du ministère du Travail, on s'aperçoit qu'il y a encore de l'argent, ce fonds est encore doté, et le gouvernement communique beaucoup sur la faculté des entrepreneurs de mobiliser ce fonds de solidarité. Et il le fait en insistant bien sur la qualification. Le décret évoque la notion de subvention. Et les juristes ont cette fâcheuse tendance à définir, et c'est plutôt même une qualité, lorsqu'on regarde ce que c'est qu'une subvention, et on fait référence à cette loi du 12 avril 2000, la subvention, c'est un flux financier fléché de manière inconditionnelle, enfin inconditionnelle, pas tout à fait, de manière définitive, mais conditionnelle. Ça signifie que si l'emploi de cette somme-là n'est pas utilisé à ce pour quoi il est pensé, eh bien, l'État peut réclamer évidemment le retour de cette somme-là. En gros, si on ne correspond pas dans les déclarations faites par l'expert comptable d'ailleurs de la société, s'il s'avère que la réalité n'est pas là, eh bien, bien sûr que ce flux subventionnel sera récupéré par l'État. Donc, axe majeur de l'intervention de l'État auprès des entreprises, le fonds de solidarité. Deuxième axe majeur, les exonérations de charges et les exonérations, là aussi, c'est le caractère définitif, c'est comme une situation. On est exonéré d'un certain nombre de charges qui ne sont pas à payer et qui ne seront pas à payer. Ça, c'est important. Et dans cette typologie, on trouve également les réductions ou les suspensions de charges. Et là, attention, grande nuance, parce que quand on est dans un phénomène de suspension, et bien comme son nom l'indique, ça n'est qu'une suspension. Il faudra, dans le cadre d'un plan d'apurement qui peut aller jusqu'à 36 mois, donc c'est quand même pas neutre, acquitter au final le montant de ces charges-là. Donc, il y a des catégories de charges qui sont actuellement totalement exonérées. Donc, ça signifie qu'elles ne seront pas à payer jamais. Et il y a des catégories de charges qui sont suspendues, qui sont réduites, mais qui seront tôt ou tard à payer. On y reviendra bien sûr dans le cours de cette conférence très naturellement. Et ça, c'est le deuxième axe de ce que j'ai appelé les aides principales. Et puis le troisième axe, c'est le PGE, le fameux prêt garanti par l'État. Là, il y a une évolution significative et très récente. Le PGE a été négocié entre l'État et la Fédération des organismes bancaires pour être possiblement reporté dans son remboursement d'une année. Ça signifie qu'on n'aura pas à rembourser ça avant l'été 2021, mais avant l'été 2022. Et ça, c'est un point qui est extrêmement important parce que ça diffère l'amortissement qui autrement se serait déclenché automatiquement sur 5 années. Si on diffère d'une année, il sera automatiquement déclenché pour 4 années. On sait que ça n'ira pas au-delà, mais c'est un axe majeur là aussi de ce que j'ai catégorisé comme étant les aides principales, dont je rappelle donc les 3 items, le fonds de solidarité, les exonérations ou suspension de charges, et le prêt garanti par l'État. Et puis, pour terminer sur ce tableau rapide, les aides que j'ai qualifiées de secondaires, eh bien, c'est effectivement ce qu'on avait appelé le chômage partiel et qui s'appelle désormais l'APLD, hein, l'activité partielle de longue durée. C'est un dispositif qui, là encore, est en cours, qui a été mis en œuvre par les services de l'État pour venir soutenir l'activité, permettre le maintien de l'emploi. Il est conditionné, c'est pour ça qu'il s'est un peu plus complexifié, si je puis dire, à la signature d'un accord collectif définissant d'établissement ou d'entreprise. Donc, il y a une logique de droit social, j'allais dire, et du droit de la sécurité sociale. Cette APLD, activité partielle de longue durée, est donc soumise à la conclusion d'un accord d'entreprise ou d'un accord d'établissement. C'est une première catégorie d'aide que j'ai appelée le secondaire. Les deux autres catégories d'aides secondaires sont les aides à l'embauche, ce fameux dispositif qui va venir, et ça correspond à une question d'un des participants qui se demandait si ce dispositif de 4 000 euros pour les embauches de moins de 26 ans allait être prolongé au-delà du 31 mars. A priori, non. Je parle un petit peu conditionnel parce qu'en l'état actuel, on peut, aujourd'hui, 23 février 2021, on s'aperçoit que au 31 mars 2021, cette aide prendra fin. Il n'est pas exclu de penser, puisque les choses sont quasiment changeantes de jour en jour, en tout cas de semaine en semaine, que ce soit prolongé. Mais c'est un dispositif d'aide secondaire qui n'est pas négligeable et qu'il faudrait mobiliser très rapidement, puisqu'on arrive à la fin de ce dispositif. Et enfin, sur les loyers, et ça correspond là aussi à une préoccupation majeure de nos auditeurs et de nos participants, c'est normal. Il n'y a pas de dispositif spécifique mis en place par l'État, et c'est normal parce qu'on est dans le cadre d'un contrat de droit privé entre des bailleurs et des preneurs. Ce qu'a dit l'État, c'est qu'au terme de la loi de finances rectificative, hein, dans son article 14, en décembre 2020, a prévu qu'il y avait un moratoire de 2 mois à compter de la date à laquelle les mesures de police administrative cesseront. Ça signifie que tant que l'urgence sanitaire continue, on ne peut pas être sous le coup de pénalités de retard, sous le coup d'expulsion, sous le coup de prise de garantie personnelle, cautionnement, nantissement, mais il faut payer son loyer. Et ça, c'est jugé désormais. Hein, les juridictions commerciales et civiles ont été saisies depuis déjà de nombreux mois de questions entre bailleurs et preneurs. Le principe a été posé selon lequel la force majeure, qu'on appelle le fait du prince, la décision de l'État, n'avait pas d'impact sur la nécessité d'exécuter de bonne foi le contrat de bail qui lie un bailleur à un preneur. Donc, l'aide secondaire, je l'ai qualifiée comme ça parce que l'État ne peut pas dire ben, il n'y a plus de loyer, messieurs les bailleurs, ben, vous oubliez vos loyers. Non, il nous dit simplement, messieurs les bailleurs, vous ne pouvez pas poursuivre les preneurs, vous ne pouvez pas poursuivre celui qui est titulaire d'un bail commercial pour un restaurant, un bar, que sais-je, mais vous pouvez simplement exiger son paiement, ne pas le mettre dehors s'il ne paye pas tant qu'il y a l'urgence sanitaire, et 2 mois après la fin de cette période d'urgence sanitaire, il pourrait y avoir des mesures classiques d'expulsion, de prise de caution solidaire, de garantie à l'égard de ceux qui occupent les lieux. Je termine ce propos introductif pour au cœur de l'actualité, puisque la loi qui vient de prolonger l'urgence sanitaire est du 15 février 2021. Il faut se rappeler qu'il y a eu 2 prolongations de l'état d'urgence sanitaire et il est heureux que nous puissions tenir ce webinaire aujourd'hui, 23 février, parce qu'on est au cœur de l'actualité. L'urgence sanitaire devait prendre fin le 16 février. On aurait tous été, M. Giunti, vous le rappelez, très heureux de pouvoir reprendre le chemin des bars et des restaurants et des hôtels dans de bonnes conditions, des conditions normales. C'était prévu pour le 16 février, malheureusement c'est illusoire. On est maintenant prolongé jusqu'au 1er juin 2021. Ça, c'est une nouvelle extrêmement importante. L'urgence sanitaire a été prolongée par une loi du 15 février 2021 jusqu'au 1er juin 2021. Voilà pour ce tableau rapidement brossé de la situation des aides actuellement en France.
Alors là, j'ai quand même plein de questions. Déjà, rassurez-moi, ce n'est pas parce qu'ils ont prolongé jusqu'au 1er juin que de manière définitive, on ne verra pas un petit café en terrasse avant le 1er juin.
Non, effectivement. Comme je vous le disais tout à l'heure, je crois qu'avec M. Gervasson, on partage la même approche, les choses évoluent de semaine en semaine, voire D'accord. même de jour en jour parfois. Donc, cette loi, je pense, est une loi prudente. L'État a dû, à de nombreuses reprises, proroger l'état d'urgence sanitaire, dont on sait qu'il est très fortement attentatoire aux libertés individuelles. Donc, c'est forcément exceptionnel. Je pense que par mesure de précaution, ils sont allés assez loin. On peut raisonnablement penser que le jour où cette situation épidémique s'améliorera, on peut, par une loi, reprendre ce que la loi a fait. Donc, réduire tout ça dans le temps.
Alors, revenons sur le premier sujet qui concerne les subventions. Moi, je me mets à la place d'un restaurateur. Au début, j'avais un peu de trésor, donc je ne connaissais pas. Je suis arrivé un peu en retard sur le truc. Je n'ai pas sollicité les subventions. Est-ce que je peux le faire maintenant, même si je n'ai pas bénéficié de ces subventions dans les tout premiers mois du dispositif? Et si je ne l'ai pas fait, est-ce que je peux le faire de manière rétroactive? Et dernière question. Est-ce que j'ai pu le faire à un moment donné, arrêter et le refaire à un autre moment? Enfin bref, est-ce que la subvention est assez souple pour pouvoir répondre à ces différentes problématiques ou pas?
Oui, absolument. Je réponds par l'affirmative à votre question. Le décret dont j'évoque l'existence, c'est le décret numéro 2020-371 du 30 mars 2020. Donc c'est vraiment un décret fondateur, j'allais dire, puisqu'il a été pris dès le début de la crise sanitaire et il a été actualisé de mois en mois. Et il faut savoir qu'effectivement, il fait plus de 300 pages. Ce n'est pas pour le bonheur d'écrire, c'est parce qu'à chaque fois, on a empilé mois par mois quels étaient les droits des entrepreneurs concernés par cette cessation d'activité. Donc, on raisonne mois par mois. Et si sur un mois, on correspond aux conditions, perte de chiffre d'affaires comprise entre 50 et 80%, moins de 250 salariés, Il y a des conditions qui sont très simples à identifier. Si, à l'aide de son expert comptable, on est capable de les identifier, même 6 mois après, de dire, là, je suis en février 2021, mais je veux pour juillet 2020, peut-être que je n'ai pas sollicité en son temps, je suis parfaitement en mesure de le faire maintenant, en remplissant les conditions, en disant, sur ma situation bilancielle, je sais que je peux identifier une perte de chiffre d'affaires, je correspond aux conditions d'emploi, et donc je la sollicite dès à présent. Parce qu'encore une fois, le décret est un décret mensualisé, si je puis dire. Il prend mois par mois, donc on parle de février 2021, janvier 2021, décembre 2020, etc.
Bon, ça c'est une excellente nouvelle pour tous ceux qui n'ont pas osé. Donc, il n'est jamais trop tard pour revenir sur le passé dès lors que vous répondiez, en tout cas, aux différents critères. Et donc, je me retourne vers M. Gervasson. Donc, on se retrouve, au mois de décembre 2020. Je pense avoir fait effectivement pas le bon chiffre d'affaires, mais qu'est-ce qu'il faut que j'apporte comme preuve à l'administration pour pouvoir dire ben oui, j'ai pas fait ce chiffre? Parce que moi, généralement, je clôt mes comptes de manière annuelle et pas forcément mensuelle. Donc, comment arriver à démontrer mensuellement que par rapport à l'an dernier, effectivement, je n'ai pas réussi à atteindre les 50% de chiffre d'affaires de ce que j'ai fait à N-1?
Alors, généralement, dans la mesure où on devient éligible au dispositif, bah, il suffit de produire une attestation, validée bien évidemment par un professionnel du chiffre, qui approuve, entre guillemets, qui atteste la variation éligible afin de percevoir l'aide. C'est simplement la production d'une attestation.
Donc, typiquement, l'expert comptable peut nous signer un document comme quoi le chiffre, effectivement, n'a pas été réalisé.
Que ce
sur, la
soit,
base de, sur la base de balance, ce genre de choses qu'il a forcément. Ben.
Ça sera effectivement à partir d'éléments probants, donc la comptabilité. Il faut savoir qu'on a quelques clients qui ont, de leur propre initiative, demandé des aides, à tort, parce que là, effectivement, vous parliez de déclaration annuelle, mais dans le cadre de déclaration mensuelle, bien, effectivement, Il y a un indicateur qui a permis aux impôts de refuser certaines aides ou au moins d'en demander la restitution. C'est par rapport aux déclarations de TVA. On s'est retrouvé avec des gens qui sont allés demander des aides alors qu'ils n'étaient pas
tout
éligibles.
Fait.
Elles ont été versées, mais 15 jours après, on leur a demandé de les restituer. On a contrôlé derrière ce qu'ils avaient fait. Effectivement, dans la mesure où vous n'êtes pas éligible, on vous demande la restitution. Par contre, si vous êtes éligible, la production de l'attestation est tout à fait suffisante, que ce soit pour avoir une subvention ou pour l'octroi d'un PGE. Je pense que beaucoup de participants, enfin, certains participants ont dû essayer de bénéficier de ce prêt. Et effectivement, il y a une attestation qui était demandée par les organismes bancaires.
Bon, donc
c'est un simple papier.
Hein. Oui, mais c'est effectivement quand on ne sait pas, on ne fait pas. Donc là, il suffit effectivement que vous puissiez, alors grâce à ce que m'a dit Maître Bruno, on peut remonter dans le passé jusque effectivement au début de la période de crise. Ça, c'est une excellente nouvelle. Et il suffit d'appeler son comptable ou son expert comptable pour avoir juste l'indicatif probant pour demander autant de subventions qu'on est éligible au mois le mois, si j'ai bien compris, le dispositif. Donc ça, c'est plutôt une excellente nouvelle. Il y avait un deuxième thème qui était intéressant, Maître, c'était celui concernant les exonérations. Vous parliez d'étalement sur 36 mois. Celui-ci se fait-il de manière automatique ou est-ce qu'il faut un peu pousser le trait avec l'administration, notamment les URSSAF, en disant « je veux 36 mois, sinon rien ».
Alors, là-dessus, il y a bien deux notions distinctes. Hein. Il y a une notion d'exonération de cotisation.
Oui.
Dessus,
je parle de la suspension là. Ouais,
alors voilà, on viendra tout à l'heure là-dessus. Sur la suspension, le plan d'apurement doit être sollicité. Si vous ne payez pas les URSSAF notamment, l'échéance est automatiquement reportée. Mais elle est reportée sur une initiative qui va être celle des URSSAF sans qu'il n'y ait eu de démarche de la part de l'entrepreneur. Ce qu'il faut recommander, c'est le dialogue immédiat avec les services des URSSAF et les services qui contribuent, enfin qui perçoivent ces cotisations-là, parce qu'il faut entrer en dialogue avec eux pour démontrer, à l'aide notamment de son expert comptable, que la situation d'entreprise justifie un plan d'apurement dont l'État nous indique qu'il peut aller jusqu'à 36 mois. Ça ne signifie absolument pas, et là, il faut vraiment faire preuve d'une grande prudence, que ce sera automatiquement 36 mois. Ce que rappelle quand même, on va dire en préambule de ce type d'annonce du gouvernement, c'est que toutes les entreprises peuvent contribuer au regard de la situation du système de santé, au regard des besoins en financement de ce même système de santé, doivent participer. Et je rebondis sur ce que disait tout à fait très justement M. Jarmasson. Attention à être très rigoureux dans la présentation de sa demande, parce que les entreprises dites profiteuses, c'est comme ça que l'État les appelle, sont très durement sanctionnées. Il faut faire très attention dans la présentation de sa demande pour dire j'y ai droit. Je sollicite un plan d'apurement qui peut aller jusqu'à 36 mois parce que mon expert comptable justifie de ce que je suis en situation de fragilité du fait du Covid. Je rappelle que le décret dont j'évoque l'existence du 30 mars 2020 justifie, enfin, exige deux types de déclarations. Une déclaration sur l'honneur de l'entrepreneur et de l'expert comptable qui dit il y a une situation de trésorerie due au Covid et une déclaration qui dit « je n'étais pas en difficulté avant la pandémie du Covid ». Donc, en gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut justifier d'une causalité exclusive entre les difficultés de l'entreprise et le Covid. S'il y a une situation dégradée avant, on n'aura pas le droit à ce type d'aide, oui. En tout cas pas dans l'ampleur. Donc, ce que je dis et le discours que je vais faire passer, c'est attention à être d'extrêmement bonne foi, attention à bien travailler son dossier avec son expert comptable, avec son avocat également. Et attention, dans la relation au service qui prélève les cotisations, on va bien dialoguer avec eux pour justifier une nécessité d'un plan d'apurement jusqu'à 36 mois. Il n'y aura rien d'automatique, il faut discuter.
Alors, nos internautes sont des céréales entrepreneurs pour beaucoup d'entre eux. Donc, certains, effectivement, donc un bar, un restaurant, un hôtel, et c'est déjà beaucoup de travail, mais d'autres, effectivement, aiment multiplier les plaisirs et donc du coup créer souvent une holding qui permet effectivement de gérer leurs différentes activités. Et ceux-là sont un petit peu perdus par rapport à la problématique. Donc j'ai trois questions sur ce sujet-là que nos internautes, je vais vous les lire et puis après je vous laisse répondre, peut-être M. Jarmasson d'ailleurs. La première question, c'est comment se calculent les aides dans le cas où il y a une holding qui détient plusieurs restaurants, plusieurs bars, c'est pareil pour des hôtels. Deuxième question, mais c'est à peu près la même. Pour la prise en charge des coûts fixes, doit-on regarder chaque restaurant individuellement dans le cas où il soit tenu par une holding? Est-ce qu'effectivement, pour regarder la chose de manière consolidée, même si on n'a pas de compte consolidé? Troisième question, comment sont calculées les charges fixes au titre de l'aide du gouvernement à hauteur de 70% quand nous avons des structures qui remontent à une holding avec des gros coûts fixes à dispatcher sur chaque filiale? Bref, on est quand même toujours dans la même problématique. J'ai plusieurs entités, j'ai plusieurs campings, j'ai plusieurs hôtels, j'ai plusieurs bars, j'ai plusieurs restaurants, un mix de tout ça. J'ai créé une holding parce que c'était plus simple. Mais du coup, est-ce que j'ai droit à rien? Ou est-ce que j'ai droit individuellement à quelque chose? Comment vous aborderiez la problématique avec l'un de vos clients s'il venait avec ces questions? Cher monsieur Gervason.
En essayant d'être très pragmatique, dans la mesure où effectivement les annonces qui ont été faites assez récemment, on va dire, sont un peu floues dans l'aspect opérationnel. Aujourd'hui, ce dont on est sûr, c'est que les aides sont accordées par entreprise. Donc, il y a une holding ou pas, la holding elle est propriétaire de filiales, donc on a une entité juridique. Il est clair que dans le cas d'une holding, c'est un groupement de sociétés. Certaines conditions d'éligibilité font que l'ensemble des sociétés sœurs doivent respecter les seuils. Ça, c'est par rapport au nombre de collaborateurs. Au niveau de l'aide qui est attribuée donc, pour chaque entreprise, au niveau des frais fixes, ben, la holding va les redescendre et les imputer à ses filiales. Donc, à partir de là, si on garde les mêmes clés de répartition qu'on avait les années précédentes, on doit être en mesure de dire voilà quelles sont les charges fixes, bien qu'elles soient connues certaines fois et principalement en fin d'exercice, d'essayer de faire une approximation en disant voilà ce qui est réparti généralement. Au prorata du chiffre d'affaires, c'est ce qui a été fait. Aujourd'hui, il n'y a plus de chiffre d'affaires. On va garder le même principe, puisque comme son nom l'indique, elles sont fixes et on va garder ses clés. À partir de là, l'aide sera demandée par l'entité juridique elle-même, tout en sachant que normalement, les plafonds s'appliqueront pour le groupe. Donc, c'est là où on sait qu'il y aura une aide donnée individuellement, mais qui sera plafonnée, notamment, alors là, par des grosses structures. On n'a pas eu le cas aujourd'hui, à savoir des 3 millions d'aides pour les entreprises qui font plus d'un million de chiffre d'affaires par mois. Il y aura une aide plafonnée de 3 millions du 1er janvier au 30 juin. Mais là, la seule chose qu'on ne sait pas, par les modalités de calcul, c'est à savoir si cette aide sera par entité pour le groupe global. À mon avis, c'est pour le groupe global, hein, puisque les charges fixes sont réparties au niveau des filles. Je ne pense pas qu'on puisse excéder les 3 millions d'euros de remboursement de ces charges fixes par rapport au groupe. J'espère avoir été clair, mais globalement, on va dire qu'il faut prendre les mêmes clés de répartition que l'on avait l'année d'avant et se baser dessus, en sachant qu'il pourrait y avoir un ajustement si jamais les charges fixes est
Mais
amené à
là,
diminuer, un ajustement.
on parle pas des subventions, parce que les subventions, pour le coup, elles sont délivrées dès lors que c'est une personne physique qui tient la société, ou je me trompe là-dessus?
Non, ça sera la société, elle sera attribuée à la société.
Oui, absolument.
D'accord.
Les subventions dont on parle, hein, les subventions issues du fonds de solidarité sont dévolues aux sociétés qui le sollicitent. Et je rejoins ce que dit M. Gervason, on raisonne société par société, même si effectivement, dans des conditions que pour l'instant on ne connaît pas très bien, au niveau des groupes, il y aura effectivement un seuil au-delà duquel le niveau d'aide ne pourra pas être attribué.
D'accord.
Parce que vient se greffer aussi là-dessus, on n'a pas évoqué le sujet, mais il y a des subventions européennes. Donc tout ça, honnêtement, on ne sait pas, on ne maîtrise pas encore par rapport aux chiffres qui sont annoncés et par rapport à ce qui est imposé par la Commission européenne. Donc là, je ne sais pas trop les plafonds aujourd'hui du décret, comment ils s'imbriquent après au niveau européen. Il y aura certainement des ajustements, je pense, de toute façon, la personne
D'accord.
est capable aujourd'hui de se prononcer sur le sujet.
Question toute simple. Les hôtels qui ont été fermés pendant le mois de décembre, le mois de janvier, par exemple, ou avant, mais qui malgré tout continuent à prendre des réservations pour l'été 2021, on considère qu'ils sont fermés ou qu'ils ne sont pas fermés?
Ils sont actuellement fermés et ils réaliseront un chiffre d'affaires futur.
Donc
Ils
le
sont en
chiffre d'affaires,
activité.
donc les prises de commandes qu'ils font au mois de décembre ne sont pas considérées dans le chiffre d'affaires du mois de décembre.
Ah non, 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 comme le nom l'indique, la prestation n'est pas livrée.
Non, mais
Pas de
on est
prestation
d'accord.
délivrée, il n'y a pas de chiffre d'affaires facturé. Donc, les
Donc,
prises de
oui,
commandes,
quoi. pouvez
Il n'y a pas
continuer effectivement à faire
de
des
TVA, il n'y a rien, puisqu'effectivement, il n'y a pas de prestation encore réalisée. Donc, on est sur cette logique de non-réalisation d'une prestation.
C'est plus compliqué pour pouvoir commander des cafés à horizon 6 mois, mais pour les hôtels, ça fonctionne en tout cas. Il y a une question aussi d'un des internautes qui correspond au découpage. Là, on parle effectivement des holdings, mais au sein même d'une société, typiquement, un de nos internautes nous dit, moi, j'ai un bar tabac. Donc, forcément, le bar, il est fermé, mais le tabac, il est ouvert. Donc, du coup, est-ce que je peux bénéficier d'aide, même si en fait une partie de l'activité continue à tourner et l'autre partie en fait m'est interdite?
À partir du moment où on se situe dans la même société, qui a plusieurs activités, mais qui est bien dans un seul et même secteur, si je puis dire, le même véhicule juridique, on va dire, qui a bar, tabac, PMU, vente à emporter, que sais-je, eh bien, s'il y a un chiffre d'affaires qui est réalisé, on va raisonner exactement comme en matière de sollicitation d'aide classique, le décret du 30 mars 2020. Est-ce que mon chiffre d'affaires comparé aux années et aux mois précédents dans la même situation est inférieur de 50%, 60%, 70%? Et si c'est le cas, je rentre dans la logique d'aide. Si avec l'activité résiduelle, si je puis dire, je parviens à arriver à un chiffre d'affaires qui dépasse les seuils, je n'aurai pas le droit à l'aide. L'aide, elle est vraiment calibrée en fonction d'un seuil. On est dedans ou on n'est pas dedans. C'est vraiment un effet. Alors, c'est bête comme des mathématiques, j'allais dire, mais soit vous êtes en deçà de 50% de chiffre d'affaires et vous n'y avez pas droit, soit vous êtes au-delà et vous y avez droit. Donc, l'activité résiduelle d'une société, on va scanner cela, si je puis dire, avec l'aide de son expert comptable pour savoir si la production du chiffre d'affaires permet de rentrer dans les critères de l'évolution du.
Bon, j'ai une autre question, mais celle-ci va être facile à répondre. Quelqu'un qui se pose des questions sur la restauration rapide, est-ce qu'elle est spécifique ou pas? Je ne pense pas. La restauration rapide, c'est.
Là-dessus encore, vous allez dire que je me répète, mais mon décret du 30 mars 2020, il est bien écrit, il est très actualisé et il dispose de trois annexes. Et ces annexes, elles sont intéressantes parce qu'elles définissent de manière très précise les activités concernées. Lorsqu'on regarde les annexes, hein, j'ai dit très rapidement, la première d'entre elles, c'est les téléphériques et remontées mécaniques. Bon, c'est pour l'année 2020, c'est important, c'est pas une hôtel et hébergement, hébergement touristique, terrain de camping, restauration traditionnelle, cafétéria, restauration de type rapide, c'est clairement indiqué dans la rubrique. Alors, je ne vais pas toutes vous les lire, il y en a plus de
Mais non,
300.
mais donc.
Mais la réponse, elle est fournie par décret de manière limpide. La restauration rapide est totalement concernée par les dispositifs d'aide. Ça veut dire, pour revenir sur votre question, M. Gentil, que si ce restaurateur continue d'avoir une activité avec le click and collect, avec une petite activité qu'il parvient à retenir, si son chiffre d'affaires se compresse dans les proportions qui correspondent au dispositif du décret, malgré la continuation de son activité, il a le droit à l'aide en question.
Donc, vous pouvez continuer à travailler, mais on s'arrête à 50%, quoi. Donc,
Absolument, on va s'intéresser à l'évolution de votre chiffre d'affaires.
on baisse le rideau à 50%. Bon, en tout cas, c'était pas très rigolote, malheureusement. Est-ce qu'il y a une particularité dans la particularité? Donc, là, on est dans le secteur de l'hôtellerie, des restaurants et des bars. Est-ce qu'il y a une particularité au sein de ce secteur dans les DOM-TOM?
Pardon, excusez-moi, je n'ai pas dit.
Dans les DOM-TOM, est-ce qu'il y a une particularité pour ces acteurs-là?
Dans les DOM-TOM, il n'y a pas de singularité. À près quand même, c'est que l'urgence sanitaire ne s'applique plus du tout partout. En Guyane et à Mayotte notamment, il n'y a plus d'urgence sanitaire. Donc ça, c'est une singularité importante parce que ça signifie que le dispositif d'aide cesse par conséquent à compter la date à laquelle l'urgence sanitaire a elle-même pris fin. C'est la seule singularité parce que pour le reste, en dehors bien sûr de l'adaptation de la monnaie, je pense évidemment à la monnaie française, il n'y a pas de singularité particulière. Il y a des de la même façon dans les DOM-TOM et en métropole.
D'accord. Petite question, question rapide, réponse rapide concernant les taxes audiovisuelles, puisque nos hôtels et restaurants sont fermés, est-ce qu'on les paye encore ou est-ce qu'elles sont suspendues, est-ce qu'elles sont exonérées, quelle est votre.
Alors là-dessus, malheureusement, ce dispositif fiscal ne bénéficie d'aucune exonération. Il n'y a strictement aucun dispositif là-dessus. La taxe audiovisuelle, elle est due non pas en raison d'une activité ou pas d'activité, elle est due en raison de la détention d'un appareil qui diffuse la télévision. Donc, c'est l'article 1605 du Code général des impôts. Et comme tout ce qui relève du Code général des impôts, j'allais dire, c'est automatique et c'est souvent pas du tout soumis à l'interprétation. Vous avez un appareil qui la télévision à destination de vos résidents. Bien sûr, il y a des dispositifs d'abattement en fonction du nombre d'appareils détenus, mais ça, c'est l'application classique de l'article 1605. Aucun impact de Covid-19. Vous avez un appareil, vous payez.
Après, il y a une logique, hein. Il faut bien que la subvention serve à quelque chose. Donc, elle sert à payer ces charges incompressibles, notamment donc, ces taxes-là, les
Absolument.
loyers qui ne sont que décalés. Donc, si vous pouvez les payer, payez-les, parce que tous les bailleurs ne sont pas des gens extrêmement riches. Ils ont aussi des problèmes qu'on pourra adresser dans un autre webinaire. Donc, utilisez vos subventions pour essayer d'honorer vos charges, c'est ce qu'il faut faire, je pense, pour qu'on soit tous solidaires dans cette difficulté. Et donc, il est temps d'aborder le deuxième thème, qui est un peu plus technique. Et donc là, Monsieur Gervason, je pense que ça va être bientôt à vous. Donc, on parle de fiscalité des aides. Il faut être simple, Monsieur Gervason, c'est compliqué, la fiscalité. D'un point de vue général, qu'en est-il s'agissant donc de la fiscalité, de ces exonérations, de ces subventions? Alors, de ces prêts, il n'y en a pas, mais qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus de manière synthétique?
Alors, très synthétique et très simple, eh bien, ce n'est pas fiscalisé. Donc, à partir de là, on ne peut pas faire plus simple. Une
Ah oui, c'est pas mal.
subvention reçue, n'est pas fiscalisée. Ça, c'est la très bonne nouvelle, par rapport.
C'est-à-dire qu'on ne nous donne pas d'un côté pour nous reprendre de l'autre.
Oui, c'est
Non.
ça.
Non, ça, c'est voilà, ça, c'est on va dire la vraie bonne nouvelle, enfin, très bonne nouvelle, d'un point de vue fiscal, de ces subventions, elles échappent à l'impôt. On ne va pas vous les donner d'un côté, mais vous les reprendre de l'autre en les taxant.
Bon, c'est une
Après, en ce qui concerne les exonérations, bon, bah là, comme son nom l'indique, on ne va rien nous donner, mais par contre, on ne paiera rien. Voilà, là, c'est complètement neutre. Et ensuite, en ce qui concerne les financements, bah, les prêts, là, il n'y a pas de déductibilité, c'est un remboursement étalé dans le temps avec des taux préférentiels. Mais ça a juste un impact sur la trésorerie, mais pas sur le résultat fiscal.
Pour une fois que la fiscalité est simple, on va pas se
Ah là, on va s'en priver.
On ne va pas s'en priver. Je reviens sur les trois dispositifs qu'avait évoqué Maître Bruno au tout début, donc, et notamment sur le troisième, sur le PGE. Moi, j'avais un petit commentaire, si vous me permettez, Maître, c'est que oui, c'est prolongé d'un an, mais il ne faut pas louper, si vous avez déclenché un PGE il y a 6 mois, ou il y a 8 mois, ou il y a presque 12 mois, il ne faut pas louper les quoi. C'est 2 mois avant qu'il faut signaler à sa banque, ou sinon la banque, en fait, elle ne va pas être sympa, elle ne va pas le prolonger naturellement d'un an, je crois.
Oui, absolument. Et là aussi, je parlais du dialogue nécessaire avec les organismes sociaux. Le dialogue, il est de même nature avec le banquier. Le banquier, il a été un petit peu mis sous pression par les services de l'État pour participer pleinement à ce dispositif de soutien. La BPI, évidemment, y a pris sa très large part. Il faut dialoguer avec lui parce qu'effectivement, s'il n'y a pas d'échange, s'il n'y a pas de relation entre l'entrepreneur concerné et son banquier, lui, le banquier, va déclencher soit le remboursement immédiat, soit l'amortissement. Et l'amortissement va partir sur 5 ans. Alors, certes, comme le dit M. Charmazon, avec un taux préférentiel, mais quand même, ça signifie que ça va impacter durablement sur les 60 prochains mois la trésorerie de l'entreprise. Une vraie réflexion à mener, une vraie prospective d'entrepreneur. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je rembourse maintenant si je peux? Est-ce que je le décale d'un an avec ce différé qui me permettra de le rembourser non plus sur 60, mais sur 48 mois seulement si je le prends sur un amortissement? Donc là, il y a un plan de trésorerie. Il faut travailler en étroite collaboration avec son banquier et avec son expert comptable. Ça signifie que les prévisionnels, si tant est qu'on puisse prévoir quoi que ce soit malheureusement en matière d'hébergement et de restauration, mais il faut essayer d'approcher quelque chose de raisonnable pour savoir dans quelle mesure sur un plan de trésorerie on peut anticiper sur un remboursement dès le mois de juin de cette année ou en juin 2022 avec un remboursement total et entier ou un lissage et un amortissement sur les 5 ans qui viennent, sachant que un PGE ne pourra jamais être remboursé sur plus de 6 ans. Donc, on est dans un espace-temps, j'allais dire, qui est relativement contraint. Il y a des PGE qui ont été sollicités de manière parfois significative. Attention à cela, le dialogue avec le banquier n'est pas toujours crucial, parce qu'un gros PGE et un prévisionnel un peu dégradé, ça peut menacer de manière tout à fait significative la pérennité de l'entreprise. Les professionnels du tourisme s'en inquiètent évidemment, et il faut être là-dessus dans un dialogue. Par quotidien, mais très régulier avec son banquier, assisté de son expert comptable. J'insiste sur ce fait, parce que l'expert comptable, il connaît l'historique de la société, il en connaît avec l'aide de l'entrepreneur les perspectives, et il faut présenter quelque chose qui soit aussi rassurant possible pour le banquier partenaire.
Alors, je suis parfaitement d'accord. Discuter une condition nécessaire avec tous les acteurs et notamment avec les banquiers. Et puis, pour une fois dans notre vie, si vous voulez prolonger de 12 mois, vous pouvez faire, même si le banquier n'est pas d'accord. C'est bien ça, hein?
Absolument, vous pouvez tout à fait dire, je décide de prolonger d'un an le différé de paiement. On est sur un différé et on a bénéficié d'un PGE, mettons, en mars ou en juin de l'année dernière. Si vous l'avez eu en juin 2020, vous êtes tenu de le rembourser en juin 2021. Et vous pouvez dire à votre banquier, et attention, je vais le dire deux mois avant, je vais solliciter la prolongation, le différé d'un an, je rembourserai en juin 2022. Et le banquier n'a absolument, quelle que soit la situation d'entreprise, absolument pas la possibilité de venir dire, bah, pas du tout, je prononce ce qu'on appelle la décharge du terme, et je vous impose maintenant de rembourser la totalité de votre PGE. On n'est pas du tout sur une catégorie de prêt classique, c'est un prêt, comme son nom l'indique, garanti par l'État, raison pour laquelle on peut exiger la prolongation d'un différé.
Et je pense que ce n'est pas vous, maître, qui allez me contredire. Écrivez, envoyez un email, écrivez un courrier. On ne sait jamais comment ça se passe avec votre banque. Laissez une trace incontestable, n'est-ce pas, cher maître?
Absolument. Vous voyez, je parle sous le regard de mon grand-père, fondateur de 1927, qui me disait « Le droit, ce n'est pas compliqué, c'est prouve-le. » Eh bien, c'est exactement ça. Le droit, ce n'est pas compliqué, c'est prouve-le. À partir du moment où j'ai une relation contractuelle avec mon banquier, il me sert une prestation que je paye à travers des frais bancaires. Je suis en capacité d'exiger de lui un certain nombre de choses parce que l'État me le permet. La solidarité nationale me donne cette opportunité, mais écrivez de grâce, écrivez pour dire « je vous ai sollicité tel jour, telle heure, je demande expressément la prolongation de mon différé de paiement et je rembourserai en juin 2022 le crédit garanti par l'État que j'ai sollicité en juin 2020 ». À partir du moment où vous avez une trace, évidemment qu'on peut recommander pour faire un mauvais jeu de mots, le mail a la même force probante, mais encore une fois, souvenez-vous que la chose que l'on vous demandera, c'est de démontrer que vous avez bien, non pas négocié, mais demandé, dans le cadre des droits qui vous sont accordés à la faveur de ce plan de relance, un droit qui vous bénéficie et qui, ce n'est pas une faveur qui est faite. Hein. Il ne faut pas demander aux entrepreneurs de battre leur coupe ou de dire, regardez, je suis un assisté, ce serait vraiment leur faire insulte. Ils ont des droits que la solidarité nationale leur donne parce qu'ils sont producteurs, ils payent beaucoup d'impôts, comme nous tous. J'allais dire, c'est un juste retour des choses, une période qui est absolument dramatique. L'État, parce qu'il a conscience du fait qu'il faut maintenir ce tissu économique, c'est crucial pour le maintien de l'État lui-même, nous dit, c'est l'État, donc les Français qui font cette offre-là, et le banquier n'a pas à en discuter. Et il faut prouver.
On est complètement d'accord. Donc faites confiance à Maître Drouineau, à Walter Gervason, à votre avocat, à votre expert comptable, écrivez tout ce que vous voulez, ça c'est absolument essentiel pour pouvoir démontrer le cas échéant si ça se passe mal. Et donc, alors, ce n'est pas un cas où ça se passe mal, mais peut-être un cas où ça ne se passe pas comme on voudrait que ça se passe. J'ai une question concernant, et voilà, j'ai l'impression d'avoir droit à une aide, je fais la demande, les services fiscaux, sinon, me la refusent ou éventuellement ne me la versent pas. Que puis-je faire pour essayer, qui dois-je contacter pour essayer d'obtenir ce que j'estime être un droit, un dû? Walter, peut-être?
Alors, c'est une bonne question. On n'a pas été confronté, nous, de manière pratique à ce cas-là. Je pense que déjà, la première des choses, c'est d'appeler son service des impôts, son centre des impôts, puisque je ne vois pas pourquoi l'aide serait refusée si on est éligible et qu'on remplit toutes les conditions. Je ne l'ai jamais vu. Même les remboursements anticipés des crédits d'impôt aujourd'hui sont débloqués très, très rapidement. Donc, honnêtement, on n'a pas rencontré le cas, mais je pense que l'écrivant dans son service des impôts des entreprises, ça doit être réglé immédiatement, sans faire appel au médiateur. Je pense que dans un premier temps, la première solution, c'est de solliciter le service des impôts et à savoir si c'est une question de fond ou de forme. Parce que si c'est une question de forme, c'est pas compliqué. Si c'est une question de fond, c'est qu'on n'est pas éligible. Je ne vois pas pourquoi il serait refusé si on est éligible.
Oui, tout à fait. Oui, je partage ce point de vue. Hein. J'allais dire, c'est assez basique. Soit on y a droit, soit on n'y a pas droit. Attention à la problématique de forme, parce que le décret du 3 mars 2020 édicte quand même un certain nombre de formalités à respecter. Elles ne sont pas très nombreuses et pour une fois, ce n'est pas trop compliqué. Là encore, hein, l'assistance d'un expert comptable indispensable, ponctuellement un avocat, pourquoi pas, mais j'allais dire là, je vais être très sincère, ce n'est pas nous qui sommes les plus indispensables, c'est véritablement l'expert comptable qui doit rédiger l'attestation qui justifie de ce que la situation d'entreprise, encore une fois, je le répète, est exclusivement liée au Covid et ne procède pas de difficultés antérieures. Et elle est décrite par une compression du chiffre d'affaires qui correspond au Covid.
Écoutez, un grand merci à tous les deux. Je pense que vous représentez deux professions qui ont accompagné les entreprises en difficulté pendant cette longue période, trop longue d'ailleurs, qui va malheureusement encore durer un petit peu de temps. Merci de vos éclaircissements. Moi, j'ai appris plusieurs choses. J'ai déjà appris quelque chose, maître, c'est que ce n'est pas parce que je me réveille en février 2021 que je n'ai pas le droit à une aide en mai 2020. Donc ça, c'est essentiel. Chers internautes, il n'est jamais trop tard pour demander une aide, une subvention. Donc, n'hésitez pas, n'ayez pas peur. Et le deuxième conseil que je vous donnerai, si j'ai bien écouté M. Gervasion et Maître Drouin, c'est qu'il faut appeler votre expert comptable, appeler votre avocat, écrire, il faut oser demander, laisser des traces. Et à la fin des fins, si vous êtes éligible à ces dispositifs, vous aurez effectivement vous aurez la raison pour vous vous pourrez profiter de ces aides qui sont fort utiles pour vous aider à passer ce cap extrêmement difficile. Je ne sais pas si vous avez un mot à rajouter, l'un ou l'autre.
Merci de nous avoir sollicité. Et puis effectivement, voilà, notre métier, c'est un métier de prestation de services, de communauté des entreprises. Jusqu'à ce que ça s'arrête, même au-delà.
Exactement. Vous avez, en tout cas, chers internautes, les coordonnées de Maître Bruno et de Monsieur Gervasion sur la présentation qui figure en dessous de nos petites têtes. Là. N'hésitez pas à les contacter par mail ou par téléphone. Ils se feront un plaisir de vous accompagner pendant cette phase délicate. Et je pense que c'est un investissement très rentable de les contacter. En tout cas, personnellement, si j'avais à le faire, je le ferais. Donc, je vous invite à être endurant, à être volontaire, et tous ensemble, je pense qu'on va s'en sortir. Et très vite, je vous promets, on va venir dans votre terrasse de café, boire des cafés, et un petit peu plus, sans doute, un peu plus tard, genre après le couvre-feu. Merci à tous, merci maître, merci monsieur Gervasion, et puis au plaisir de vous retrouver dans d'autres circonstances. Au revoir à tous.
Au revoir, merci.
Au revoir, merci.